soir.
Nous retrouvons Frédéric Abécassis et Gilbert Meunier pour notre réflexion autour du film de Rachid Bouchareb, Hors la loi. Et dans la seconde partie de cette émission, nous souhaitions en venir à des thématiques donc un peu plus précises abordées par le film, notamment sur la vision qu'il donne des différentes parties en présence. À ce sujet, nous allons à nouveau écouter les dires d'Éric Zemmour.
On nous donne en exemple le cinéma américain capable, lui, de revisiter son histoire récente. Mais la diversité idéologique des cinéastes américains permet la variété des points de vue sur un même événement historique. Ce film commence par des images de liesse de la libération de Paris et finit par celle de joie aussi de l'indépendance de l'Algérie. On ne peut mieux mettre dans le même sac l'occupation allemande et la colonisation française. L'armée française, c'est l'armée allemande et la police française, la Waffen-SS. Il y avait dans les années 30 un cinéma de propagande coloniale, qui donna d'ailleurs des chefs-d'œuvre comme le célébrissime Pepe le Moko. Depuis les années 70, c'est toujours un peu de la propagande, mais en sens inverse. La France, toujours vue comme une puissance raciste et criminelle.
Alors, à votre avis, à partir de ces dires, quelle vision le film propose-t-il d'une part de la France, de la République française et de la police ?
Sur la France et sur la police, en fait, les figures de Français sont très peu nombreuses dans le film. L'image qu'il nous donne de la police, c'est une police à bout de nerfs. C'est une police qui se sent presque battue d'avance. Et c'est une police aussi mixte, dans laquelle ont été intégrés un certain nombre d'anciens combattants des forces coloniales. Voilà en ce qui concerne la police. Du point de vue, du côté des personnages de Français de métropole, en fait, il y en a deux. Il y a Hélène, la compagne de Abdelkader, et puis il y a le militant communiste dans l'imprimerie, alors avec une vraie référence à l'armée des ombres, aux faux papiers, etc. Deux personnages relativement pauvres et qui ne sont absolument pas le centre du film. Le centre du film, je pense que c'est plutôt le FLN.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, tu as dit tout à l'heure, Frédéric, mezzovoce, du moins qu'il s'agissait d'un film français et qu'il y avait une vision française. C'est bien ce que tu penses, n'est-ce pas ?
Oui.
Bon, alors j'ai entendu exactement le contraire, mais j'avoue que je ne sais pas bien comment trancher. Je ne sais plus si c'est à Cherbourg ou si c'est à Bordeaux, où quelqu'un dans la salle a dit « Enfin, on a un film qui est fait par un Français d'origine algérienne et qui donne enfin un point de vue différent, qui n'est pas le point de vue colonial et qui est un point de vue algérien. » Donc lui, il ne voyait pas comme un film français ou alors comme un film français d'une grande ouverture anticolonialiste, et l'anticolonialisme, c'est quelque chose qui me parle. Alors je ne sais pas ce qu'il faut penser de ce qu'il y a vraiment débat d'ailleurs.
Non, pas vraiment.
Non, c'était surtout réagir par rapport à ce que disait Zemmour du film de la France présentée comme une puissance
oppressante.
À leurs yeux, oui. Enfin, la misère de. C'est le point de vue, en réalité, de ce film, c'est le bidonville de Nanterre. Et donc, à partir de là, tout est vu comme oppressant. Que ce soit l'appareil policier, que ce soit les voies pour en sortir, qui sont soit de devenir proxénète, soit d'être parmi ces anciens combattants intégrés dans une police qui réprime, soit de devenir un apparatchik du FLN. Donc tout est oppressant parce que on a affaire à un regard d'immigrants en France qui sont oppressés par ne serait-ce que par leur habitat.
Mais le film renvoie bien aussi au système colonial par les deux flashbacks, le premier d'ouverture sur la dépossession de la terre et le deuxième sur la répression de Sétif. C'est donc pas seulement un point de vue immédiat sur la guerre de libération algérienne, on comprend, enfin... On suggère que cette guerre de libération algérienne, elle est induite par des événements intérieurs dans lesquels régnait aussi la même oppression et la même discrimination.
Et du côté algérien, cette fois, qu'est-ce que vous avez écrit, donc une histoire intérieure du FLN, on en a parlé. Qu'est-ce que vous pensez justement de la vision du FLN que véhicule le film ?
Bah, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était
À propos du MNA.
C'était pas seulement à propos du MNA. J'ai simplement voulu dire ce que m'avait la première réaction qui a été celle de Harbi, donc un ancien du FLN, qui a été parmi les dirigeants de la Fédération de France, mais qui était un vrai politique, si vous voulez. C'était pas un militaire, et je pense que sur le plan de la conception qu'il se faisait de la lutte de libération, il était, je ne sais pas s'il me pardonnerait de dire ça, il était, je pense, sur le fond, pas si loin de ce que pensaient des gens comme Messele Hadj, c'est-à-dire on n'est pas hostile à la lutte armée, mais il faut que la lutte armée puisse permettre de peser sur le cours du politique le jour où s'engageront les inéluctables négociations, c'est-à-dire les inéluctables compromis que généralement on appelle la politique. Or, Harbi, lui, il a été expert en négociation d'Évian et il sait très bien que la guerre n'a pas été gagnée par les armes. Ça ne veut pas dire que l'armée de libération nationale ait été éliminée en 1962. Elle existait encore, même si elle se tairait beaucoup. C'est vrai que sur le plan militaire, on peut dire que l'armée française régnait relativement sur l'Algérie. Mais au fur et à mesure qu'elle régnait de plus en plus, par contre-coup, et en compensation de manière symétrique, les politiques du FLN, de par le monde, dans les différents pays, jusqu'en Amérique latine, et surtout peut-être encore à l'ONU, se sont attachés à poser cette question algérienne et à tenter de la faire résoudre par la voie du politique, chose que le général de Gaulle, à mon avis, avait compris très tôt. Et s'il a donné la possibilité à l'armée française de se défouler pendant un an, en 1959, opération jumelle, opération pierre précieuse, je me demande maintenant si ce n'était pas avec l'arrière-pensée ou l'avant-pensée de montrer que cette victoire, entre guillemets, militaire ne résolvait rien au fond.
On en a brièvement parlé tout à l'heure à propos du titre du film. Rachid Bouchared, comme il l'avait fait d'ailleurs pour Indigène, utilise un terme qui participe de ce qu'on pourrait appeler la bibliothèque coloniale. Benjamin Stora, dans le livre dont on a parlé tout à l'heure, parle d'adversaires sans nom pour désigner, entre 54 et 62, des Algériens qui sont tantôt qualifiés de rebelles, tantôt de suspects, tantôt dans la loi, mais jamais de combattants. Ce qui était, selon lui, une façon de refouler la réalité de la guerre. La question est assez simple, mais est-ce un bon titre, selon vous ?
Moi, il me semble que oui, parce que justement, moi, je reviens sur cette manifestation du début qui se fait au cri de liberté, égalité, mais dit en arabe. Je pense soutenir qu'on a là un film français, c'est-à-dire un film français à capitaux français. Un film fait...
Il y a eu 25% de Algériens.
En majorité de capitaux, c'est...
Et italien.
Oui, mais... La majorité, ce sont les capitaux français, qui sont faits par des acteurs qui ont pratiquement tous la nationalité française et qui sont donc des descendants de ces sujets français. C'est un film qui traite de la guerre d'Algérie, mais en émigration, en métropole. Donc, on a ce territoire de la France qui est... Qui est très présent. Et puis, c'est un film qui est un hommage extraordinaire au cinéma français. Parce qu'il s'inscrit dans les codes du cinéma français. Je vous ai amené cette belle photo où on voit quand même le cave se rebiffe. Et cette photo de Jean Gabin en chapeau et imperméable avec un manifestant qu'on trouve en chapeau et imperméable.
C'est à quelle date ?
17 octobre 61.
C'est le 17 octobre.
On est dans une manif du 17 octobre 61.
Semblait, mais comme ça.
Donc une photo qui est présentée dans l'ouvrage de Michel Zancarini-Fournel et Christian Delacroix, La France du temps présent, qui a un gros chapitre sur les années algériennes. Donc, film français parce qu'il y a un hommage extraordinaire à ce film de genre avec des gueules dans le cinéma français, avec des gens comme Michel Constantin, Bernard Blier, Jean Gabin, etc. Mais en même temps, il y a quasiment des citations de Danton et Robespierre. C'est-à-dire que Abdelkader, jusqu'à son impuissance avec Hélène, quand ils sont tous les deux dans la chambre et qu'elle meurt de désir pour lui, il est l'incarnation de la terreur et de la vertu. Et on est dans un débat très franco-français. Alors, je ne dirais pas valeur française mais plutôt la loi, or la loi, donc la loi comme valeur universelle appelée à régir les sociétés de part et d'autre de la Méditerranée.
Je ne suis pas persuadé que la terreur et la vertu soient des qualités qui soient ontologiquement françaises ou des défauts. Je pourrais vous citer maintes exemples au sein du Front de Libération Nationale, de l'Armée de Libération Nationale, de gens qui peuvent être des incarnations aussi bien de la terreur que de la vertu, mais qui dialectiquement incarnent aussi peut-être assez souvent les deux à la fois.
D'accord, mais justement, nous allons entendre un dernier extrait de Rachid Bouchareb lui-même, qui donne un point de vue qui finalement assez peu entendu et qui pourrait dépassionner le débat.
Si, mais je crois que les historiens qui ont vu le film, certains, et qui ont trouvé un truc assez intéressant, ils ont dit quand Coppola a fait Apocalypse Now, il n'a pas raconté toute la guerre du Vietnam dans le détail. Ce film, il est là. Il est ouvert et le débat peut y aller. Et les historiens sont là, parce que l'histoire, elle s'écrit encore. Les historiens me disent, jusqu'à hier soir, mais sur Sétif, c'est pas fini, il y a encore à écrire, c'est pas terminé, sur la guerre d'Algérie, c'est pas fini. Donc le film, eh ben, si aujourd'hui, il suscite un intérêt très très large, eh ben, c'est formidable. Et moi, j'ai pas à prendre en charge non plus toute l'histoire. Je fais du cinéma. Maintenant que les historiens et le public et tous ceux qui ont envie de le régler, les politiques ont un énorme travail à faire, eh bien qu'ils le fassent maintenant, mais pour qu'on tourne une page définitivement et dans la sérénité.
Alors, qu'est-ce que peuvent vous inspirer ces propos? Est-ce que finalement on est face à un film, à un thriller américain? Est-ce que on n'en fait pas trop finalement autour d'une œuvre cinématographique qui se revendique comme telle?
Moi, j'ai cité tout à l'heure le syntagme de thriller américain parce que je l'ai entendu par quelqu'un d'assez autorisé. Mais il n'a pas que cette identité, ce film. Enfin, moi, je ne fais pas partie des gens qui croient qu'il existe une identité unique et que l'identité équivaut à l'appartenance. Bon, ce film est certainement plusieurs choses à la fois. Je crois que c'est aussi quelque chose comme un retour ou un devoir de mémoire de la énième génération immigrée d'origine algérienne qui veut penser le passé traumatique de ses parents, de ses grands-parents algériens. Enfin, je dis algériens avec une nuance. L'accent de Jamel Debbouze dans le film est tellement marocain que ça a fait hurler de rire les amis algériens qui étaient avec moi.
Oui, mais il devient macro. Donc
c'est il devient macro, donc c'est pas grave.
Dans une perspective algérienne, c'est un partage des rôles tout à fait... moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a un décentrement qui est opéré dans ce film sur la chronologie. Je ne sais pas si vous avez lu les pages de Michel Rancière sur la mort du roi Philippe II et la Méditerranée, où il raconte que donc Philippe II et la mort de Philippe II est présentée à la fin de l'ouvrage comme si elle n'avait pas d'importance. Là, dans le film, le personnage de De Gaulle, qui est au centre de la chronologie qu'on avait l'habitude de voir dans les représentations de la guerre d'Algérie, donc le 13 mai, le retour au pouvoir de Gaulle, je vous ai compris, etc. C'est des choses qui... Là, rien. Et on est au contraire dans une incise. Ah oui, vous voulez faire comme votre De Gaulle. On est en 61 à ce moment-là, si mes souvenirs sont exacts, dans la chronologie du film. C'est-à-dire que adoptant un autre point de vue que celui qui a jusqu'à présent été montré, ce film permet de nous montrer aussi une autre chronologie et une autre manière d'avoir vécu ces événements. Et je crois que c'est son apport le plus précieux, parce que c'est un film d'atmosphère, mais qui suscite quand même une certaine empathie et qui montre bien ce que les historiens savent, mais que les régimes d'historicité sont différents selon les individus.
Oui, je suis d'accord, mais je ne suis pas persuadé que ça ne renvoie pas effectivement à l'histoire française comme épilogue d'un roman national français. Ça ne renvoie pas non plus beaucoup à l'histoire algérienne, à l'histoire de la résistance anticoloniale algérienne, parce que là aussi c'est extrêmement allusif. Alors je ne suis pas persuadé que la la mise en arrière de tout cet arrière-plan, justement, elle soit uniquement française. Je crois qu'il y a une volonté de... C'est un film de fiction qui se projette sur un certain nombre d'éléments d'une réalité, mais il y a quelqu'un dans la salle, c'était à Bordeaux, qui a suggéré « ça serait bien de pouvoir voir ce film avec une petite notique explicative ». Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, mais ça dépend du public, parce qu'il y a des publics qui ont envie, qui ont la curiosité d'aller au-delà de ce qui est montré. Puis il y en a d'autres qui peuvent aussi se satisfaire d'une intrigue finalement assez belle, de ces divergences entre trois frères. Bon, on est quand même un peu dans l'héritage du néoréalisme italien, de Rocco et ses frères, et qui sauront identifier aussi dans leur propre famille les figures plutôt masculines auxquelles ça peut faire référence. Donc je suis pas persuadé. Chez les amis algériens qui en parlent de ces silences de la génération. De la génération qui a connu cette histoire-là et qui n'a rien raconté. Et là, ils ont un moyen de deviner tout ce qui n'a pas été raconté dans les familles.
Et je pense que pour ça, les inciter à rechercher.
Et ça peut les inciter à rechercher. Et je pense que pour ça, c'est précieux.
Bon, espérons que ça les incitera à rechercher. Je reprends la comparaison avec le néoréalisme italien, avec Rocco et ses frères. C'est très bien de voir l'Italie à travers Rocco et ses frères. Mais moi, je m'intéresse aussi à l'arrière-plan historique que je crois connaître un petit peu de l'évolution de l'Italie depuis 1945.
Écoutez, ce sera la parole de la fin. Frédéric Avecassis et Gilbert Meunier, merci beaucoup. Nous vous quittons cette semaine avec notre moderniste Antoine qui propose une chronique sur un personnage trop peu connu de l'histoire de France, le connétable de Bourbon.
Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose d'éclairer le personnage de Charles III de Bourbon, personnage très connu dans l'histoire mais qui garde encore aujourd'hui une part de mystère, se mêlant à de l'incompréhension. En effet, on connaît le connétable de Bourbon pour son infâme trahison à son roi François Ier pendant les guerres d'Italie. Héros de la bataille de Marignan en 1515, il est allé rejoindre les armées de Charles Quint. Sa trahison a fait beaucoup couler d'encre, mais tout n'est pas si simple. Pour comprendre l'enjeu du revers de veste, il faut se pencher sur des problèmes féodaux complexes, mais aussi sur l'enjeu mémoriel effectué par la suite à l'encontre du connétable. En effet, Charles est l'héritier des Montpensier, la branche cadette des Bourbons, une famille d'Auvergne. Et il épouse sa cousine Suzanne, l'héritière des Bourbons, en 1505. Il se trouve alors en brillante posture, et c'est le seigneur le plus important de l'époque. Henri VIII Tudor aurait même glissé à François Ier lors du camp du Drap d'Or en 1520 que s'il avait un aussi riche prince en Angleterre, il lui couperait la tête sur le champ. Mais tout le problème vient du fait que sa richesse soit étroitement liée à son épouse, Suzanne de Bourbon. Lorsque celle-ci meurt en 1521 sans héritier à la suite de l'union, la posture de Charles devient très délicate. Il retourne à son rang de cadet de la branche bourbonienne. En tout cas, c'est ce que fait valoir Louise de Savoie, la propre mère du roi, qui prétend, elle, à la succession, car elle fait partie de la branche aînée, celle des Bourbons. Dès lors, c'est une suite de procès entre les deux parties, et dès 1522, le roi confisque plusieurs domaines du duc pour les rendre à sa mère. Puis en 1523, c'est le Parlement qui casse le testament de Suzanne, qui était en faveur de son mari. Bourbon perd donc tous ses biens, sauf Montpensier, lui revenant de droit, entraîna la trahison du connétable. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, celui-ci essaya par la voie légale de plaider sa cause. Ce fief de Bourbon et d'Auvergne taillé au cœur du royaume était perçu comme une entrave à cette unité, à l'unité du domaine royal, et ne pouvait qu'attirer les foudres du roi. Quant à la trahison vers Charles Quint, pourquoi ce monarque plutôt qu'un autre? Pourquoi pas Henri VIII? Eh bien, parce que Bourbon est également prince d'Empire pour quelques fiefs allemands, et est donc vassal de Charles Quint. Le droit féodal est original, et le duc, lésé par son principal souverain, se tourne alors vers son autre obligeance, sans réelle conscience de trahison pour l'époque. Le connétable devait assister à la mort de Bayard en 1524, un an avant la bataille de Pavie. Le duc assistait alors à la plus cinglante défaite des Français des guerres d'Italie. L'armée taillée en pièces, le roi capturé et emmené à Madrid. Le connétable était enfin dans le camp des vainqueurs. Par la suite, ce sont les historiens de la Troisième République qui érigèrent Bayard en champion et en héros national. Bourbon en fut son négatif, celui qui trahit sa nation et pas avec n'importe qui, avec les Allemands. Ce fut dès lors le chevalier blanc Bayard et le chevalier noir Bourbon. Même dans les mouvements des grands féodaux, le duc de Bretagne et celui de Bourgogne paraissaient dans leurs droits. Bourbon, lui, était d'une autre époque, celle qui voulait oublier les grands vassaux pour n'écouter que des sujets dociles.